Bonjour Caroline Brouet et bonjour à tous.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
C'est officiel, le ramadan commence aujourd'hui pour près d'1,5 milliard de musulmans dans le monde. Il se décale chaque année d'une dizaine de jours. Il concerne les musulmans à partir de la puberté, qui ne doivent ni boire, ni manger, ni fumer, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Il y a certes des dérogations possibles, notamment pour les musulmans en voyage, les femmes qui ont leurs règles, les femmes enceintes. Il y a des possibilités de rattraper en cas de manquement ou même de racheter des jours de ramadan en faisant l'aumône. Mais qui songe aux centaines de milliers de musulmans qui vivent en Suède, en Norvège ou plus au nord encore, dans ces contrées où en mois de juin, le soleil ne se couche jamais ou pratiquement jamais. En Islande, en moyenne 45 minutes de nuit par jour. En Laponie, c'est l'époque des soleils de minuit. Que faire donc lorsque le solstice d'été tombe comme cette année en plein ramadan? Quelle heure choisir pour rompre le jeûne? Faut-il respecter le commandement de Dieu à la lettre? Ou y a-t-il moyen de négocier un peu, de trouver un arrangement? La réponse n'est pas simple et elle n'est pas unique non plus. D'après une synthèse publiée par RFI en 2011, il y a trois possibilités. La première possibilité, on se cale sur le point le plus proche où il y a un coucher de soleil marqué, par exemple à quelques kilomètres au sud de Stockholm. Mais dans ce cas, il reste tout de même quelques 20 heures de jour par jour. Deuxième option, certaines autorités recommandent d'adapter ces horaires de jeûne à ceux du pays à majorité musulmane le plus proche, comme la Turquie ou la Bosnie. Dernière idée enfin, et de loin la plus suivie, on suit tout simplement les horaires de la Mecque, qui ne varient pratiquement jamais. Mais la question n'est pas complètement tranchée et les débats se poursuivent dans les communautés concernées. Et certains éprouvent un tel besoin de zèle que la mosquée Al-Azhar du Caire, une des plus hautes autorités de l'islam sunnite, pour éviter les drames, a annoncé en 2013 que les musulmans ne devaient pas faire plus de 18 heures de jeûne par jour. Aujourd'hui dans les pieds sur terre, pour marquer ce premier jour du mois saint, trois autres histoires de ramadan entre Paris et Rabat, jusqu'à 14h, sur France Culture, évidemment, racontées par Ilana Navarro.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Habituellement, je passe mes ramadans à Casablanca, en famille, avec mes parents, où il y règne une ambiance assez particulière, chaleureuse, où tout le monde jeûne, ou en tout cas les gens qui jeûnent pas ne se font pas énormément entendre. On prépare un repas en famille, avec les cousines, etc. Et le soir, on se réunit en famille, à table. Et, c'est assez convivial. L'an dernier était la première fois où je passais mon ramadan à Paris. C'était une expérience assez particulière pour moi parce que c'était pas du tout le même climat. Et autant dire que pour moi, c'était le fait de vivre ramadan à Paris allait être une manière peut-être plus libre de le vivre. Je pensais que le fait de vivre le ramadan ici allait me permettre d'avoir la relation la plus intime possible avec mon Dieu. Et j'ai été très surprise. Le premier jour de ramadan, je me suis rendue à mon travail, comme j'en ai l'habitude. Les horaires ne sont pas aménagés en France. Je pratiquais à cette époque-là un stage chez une orthophoniste. On a à peine eu le temps de se dire bonjour. Elle est d'origine maghrébine et de culture musulmane. Elle m'a tout de suite demandé « Est-ce que tu fais le ramadan ?» Donc elle m'a demandé ça d'une manière assez agressive. Après ma réponse qui était « Oui », elle m'a demandé « Pourquoi ?» Et je n'ai pas répondu à cette question, j'ai souri. Ensuite, la séance s'est déroulée, donc on prenait en charge un jeune enfant. J'ai fait un oubli, j'ai été étourdie pendant un moment, c'était le premier jour. Il faut savoir qu'à Paris, la chaleur est étouffante, que c'est pas du tout évident, que les journées sont extrêmement longues. Elle m'a tout de suite coupée, au moment où je reprenais mon erreur. Elle m'a coupée en me disant « Non mais je comprends pas, tu as vraiment envie de le faire, hein ?» Vraiment, t'as envie de le faire. Je comprends pas. Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais? Et là, je sentais que j'allais pas pouvoir esquiver la question en souriant. J'ai répondu, bah parce que je le fais. Enfin, je te demande pourquoi tu le fais pas. Je comprends pas, en fait. Il y a eu une telle gêne, j'ai trouvé ça tellement déplacé de me poser cette question-là, d'en débattre à un moment où je trouve que c'était pas du tout adapté. Il y avait l'enfant qui était là, c'était vraiment pas l'endroit pour faire ça. Je n'aurais jamais parlé du fait que je fais Ramadan sans qu'elle ne m'ait posé la question. Jamais. J'ai travaillé plusieurs jours dans le même endroit. Personne ne savait que je le faisais. C'est vrai que je refusais les cafés qu'on me proposait. En aucun cas, j'ai justifié pour quelle raison je le refusais. Je me suis demandé pourquoi autant de réactions. Est-ce qu'elle était réellement à l'aise avec le fait qu'elle ne le faisait pas? Je pense que c'est parce qu'elle est maghrébine qu'elle a eu cette réaction. Peut-être qu'elle s'est dit qu'une personne qui s'habille comme moi, qui a le mode de vie que j'ai, ne faisait pas forcément le Ramadan et que ça n'était peut-être pas quelque chose qui pouvait concilier avec, avec la vie que j'ai décidé de mener. C'est resté un sujet tabou. Ramadan approche. Je la fréquente toujours. Je ne sais pas du tout comment on va réaborder le sujet en espérant qu'on ne l'aborde plus. Le fait d'être en France, pour moi, n'impliquait pas que les gens s'imaginent d'emblée que je fais le Ramadan. Je me rendais dans un quartier populaire parisien où il y avait une grande communauté maghrébine. J'étais apprêtée, je portais une robe moulante, je portais un décolleté. Je ressens énormément de regards sur moi. Il y avait foule des gens qui faisaient leurs courses pour leur tour. Et un homme qui s'est retourné en me disant que je ferais mieux d'aller manger parce que, étant donné mon accoutrement, mon jeûne ne passerait pas. Et j'ai trouvé ça très grave. Il est clairement en train de se prendre pour Dieu, quand même, pour me dire si mon jeûne est accepté ou non. Je ne lui ai pas répondu. J'avoue que c'est parce que j'étais en minorité, cet endroit-là. Si ces personnes-là se sont adressées à moi, c'est parce que j'ai le physique que j'ai. Je suis maghrébine, c'est assez visible sur moi. Et d'après ces personnes-là, mon physique témoignait de ma confession et que ma tenue dénotait complètement et n'était pas du tout raccord avec ce que j'étais supposée faire de mon moi. J'ai trouvé ça très différent de le vivre toute seule. J'ai trouvé ça un petit peu triste. Au lieu de préférer une ambiance festive et joyeuse avec ma famille, cette fois-là, j'ai dû essayer autre chose. Alors ça reste assez intéressant parce que j'explore exactement ce que je voulais explorer vis-à-vis de mon intimité. Lorsque je suis en famille, je suis pas seule. Et là, j'étais pas accompagnée. C'était beaucoup plus difficile, mais j'aimais ça comme ça. Mon jeûne, je bois du lait d'amande et puis je prenais une soupe. Et bien souvent, je n'avais pas le temps d'en préparer une. Et du coup, je mangeais de la soupe qui sortait des briques et qui était absolument affreuse. Mais c'était comme un bon goût de mon Ramadan au Maroc quand même.
m'appelle Cécile, j'ai 28 ans. Et il y a 2 ans, pendant l'été, je suis partie faire un stage en Algérie de 4 mois, Algérie Focus, qui est un média en ligne, en fait, un site internet d'information. C'était une petite équipe de 10 personnes. On était 2 à être français et français d'origine, et le reste, il y avait un Algérien, et puis il y avait 8 français d'origine algérienne. Dans cette ambiance de travail, la plupart des gens avaient décidé de faire le ramadan, sauf mon collègue qui était français. Et du coup, je me suis dit, c'est l'occasion en fait, de faire le ramadan, puisque tout le monde le fait. Quand on est dans une mouvance où tout le monde le fait, etc., c'est plus facile de ne pas manger le midi, de ne pas boire. Il suffit juste de suivre le mouvement et d'être avec tout le monde. Quand on en a marre, il suffit de regarder les autres et puis ça va tout seul, quoi. Les 3 premiers jours, je me suis dit, j'essaye 3 jours. Et puis si j'en ai marre, j'arrête. Et puis finalement, les jours passants, plus on le fait, plus on le fait en fait. Il y avait certains jours qui devenaient même encore moins difficiles que les premiers. Et puis quand on a partagé le ftour avec tout le monde, donc le repas du soir, etc., et qu'on a vécu toute cette journée dans la privation, on a presque envie de revivre ça justement, ce vrai partage, ce repas du soir en ayant jeûné toute la journée, quoi. Si moi j'avais bu, mangé, etc., je l'aurais pas vécu moi personnellement de la même manière. J'ai été très soutenue par mes collègues, surtout les collègues féminines, en fait, qui en général me regardaient avec un sourire, mais qui me disaient « t'inquiète pas, ça va être bien, on le fait tous ensemble et ça se passe bien ». C'était plus du côté d'autres collègues, surtout des hommes. À chaque fois, ils me regardaient un peu comme une petite fille, je sais pas, frêle, ou je sais pas comment ils le pensaient, mais en tout cas, ils disaient « mais t'y arriveras jamais, tu sais, c'est très dur ». Alors rien que pour ça, c'était le genre d'argument qui me motivait encore plus, justement, parce que j'avais envie de leur prouver que non, enfin, je pouvais très bien. Ils me disaient « tu verras, la première fois, c'est impossible ». Si, c'est possible. En France, on m'a dit « t'es folle, tu tiendras jamais, tu verras, en plus, en Algérie, il fait hyper chaud ». Et puis mes amis chrétiens, eux, ils m'ont dit « mais c'est génial comme expérience ». Vas-y à fond, c'est trop cool. Parce que la partie de mes amis chrétiens sentait cette dimension religieuse aussi, quoi. C'est pas seulement challenge de diète toute la journée, c'était pas seulement ça. Et c'était de pouvoir partager avec une autre religion un rite, de pouvoir essayer de faire partie de la communauté, ne serait-ce qu'un mois. Et pour moi, aujourd'hui, parfois j'ai plus de mal à m'entendre intérieurement avec un athée profond qu'avec un musulman. Et puis aussi. Le « mais t'es folle », c'est le même que j'avais de la part de certains collègues musulmans et de certains amis à Paris. C'était drôle parce que parfois je leur écrivais un mail en plein milieu de journée où je pouvais leur décrire mon état de santé, quoi. Genre ils se foutaient de moi en me disant « ça va, t'as pas trop la bouche pâteuse ?» Je fais « si, j'ai les 2 lèvres collées, je peux même plus parler ». Et pendant la journée, la faim, en finale, au bout d'un moment, elle s'en va en fait. C'est vraiment la soif qui est... Moi, la soif, ça pouvait gâcher la moitié de ma journée. Enfin, en plus, j'avais certains déplacements. Il fallait que j'aille rencontrer des gens en ville parce que j'étais quand même en charge de la communication de la boîte. Et du coup, tout le monde rase les murs, les gens marchent extrêmement lentement. J'étais comme eux, j'étais impossible d'être pressée. Enfin, parce que si on se prend une bonne suée entre 14h et 15h, il n'y a plus qu'à s'allonger jusqu'à l'heure du ftour parce que si on perd trop d'eau d'un coup, c'est fini, quoi. C'est étonnant, le repas du ftour, il est vraiment, il est construit, il est pareil dans toutes les familles, il y a la datte, le verre de lait, l'espèce de lait, un peu le lait caillé, et puis après il y avait les bourecs, et en fait quand on a jeûné toute la journée, on se sent très faible, et en fait les dattes, ça permet de faire remonter tout de suite le sucre dans le sang, je pense. C'était vraiment mon moment préféré, quoi. C'était on entend le chant du muezzin et c'est parti, on y va, quoi. Là on peut manger. La journée dans le bureau, ça criait moins, on s'engueulait moins, etc. parce que les gens sont un peu plus fatigués, donc chacun s'économise, les gens sont plus calmes. Et puis tous les jours, du coup, on faisait de la nourriture ensemble, on préparait ça pendant 2 heures, etc. Enfin, au boulot, on avait un tour où il y avait ceux qui travaillaient jusqu'à l'heure du tour et ceux qui montaient pour aller faire la nourriture pour les autres. Et tous les jours, ça tournait. Donc, on préparait le repas, donc c'était en plus, j'apprenais toutes les pratiques de préparer un repas pour le tour. Enfin, c'était vraiment passionnant. Je me disais. Tiens, c'est marrant, j'arrive pas à faire le carême toute seule, parce que chez nous, c'est plus trop quelque chose d'obligatoire. C'est quelque chose de proposé, mais il y a très peu de gens qui le font. Et je trouvais que le jeûne, quand il est fait avec conviction et avec envie, il est vachement beau. C'est ça que j'ai beaucoup aimé dans le ramadan, en fait. jamais vu autant de gens la nuit à Alger que pendant le ramadan. Et les enfants couraient dans les manèges, faisaient plein d'activités. Et puis les femmes étaient dehors aussi. Entre 2h et 4h du matin, c'était le fort de la fête, quoi. J'avais vraiment envie de le vivre de l'intérieur avec les autres aussi. C'est que à la fois, j'aime beaucoup les traditions et à la fois, je supporte pas la critique extérieure quand on fait pas les traditions. Pour moi, les traditions, ça doit rester une pratique libre, en fait. Et par exemple, dans mon bureau, il y avait ce Français qui ne jeûnait pas, c'est pas sa tradition, et qui, à un moment donné, avait sorti un Kit Kat en plein milieu de journée. Et là, il s'est fait engueuler par un de mes collègues. Comme moi, je faisais le ramadan, j'étais en légitime position pour lui dire « Attends, si toi, voir manger un Kit Kat, ça t'empêche de jeûner, c'est que ton jeûne, il vaut pas un clou, quoi. Donc arrête, et laisse-le manger. » Déjà, le pauvre, pendant un mois, il a mangé que des barres sucrées, des trucs qu'il osait même pas... Dans Alger, c'était même pas possible de se trouver un sandwich la journée, le truc. Du coup, il mangeait un peu au bonheur de la chance, comme ça. Donc déjà, c'était pas hyper facile, je trouvais. C'était pas mal, parce que ça me mettait en position de pouvoir vraiment donner mon avis, quoi. Et je pense que j'ai à peine touché... je sais pas, un millième de ce que ressent un musulman quand il le fait dans sa vie, puisque lui, c'est une démarche de vie, c'est pas une démarche d'expérience. Et je sais pas comment je le vivrais si j'étais obligée de le faire chaque année. J'avais un copain algérien qui continuait à fumer, qui mangeait, qui buvait, qui me disait, enfin, il me le disait ouvertement, sans s'en cacher. Mais en même temps, il m'invitait fréquemment pour le f'tour dans sa famille. Je parle pas arabe, donc je sais pas ce qu'il disait avec sa famille, mais ça m'étonnerait qu'il leur disait « moi j'ai mangé ce midi » ou « il faisait sa vie assez librement dans son coin », mais c'était pas quelque chose dont il se vantait. J'avais l'impression qu'il y avait énormément d'Algériens qui étaient dans ce cas-là, parce qu'il y en a beaucoup qui me disaient « quoi, tu le fais ?» Moi je le fais jamais. C'était drôle à entendre, parce que pendant ce temps-là, l'image veut que en fait, tout le monde le fait officiellement, bien sûr, alors que c'est totalement faux en pratique.
Je suis née au Maroc, à Rabat, j'ai grandi à Rabat et j'ai grandi dans une famille qui m'a transmis les valeurs de liberté, d'égalité, de dignité, de justice sociale, etc. Une famille plutôt donc laïque et mon père m'a transmis ce militantisme et puis je me suis rendu compte surtout, étant jeune, que j'étais un peu différente par rapport à une certaine norme ou à certaines normes sociales, en tout cas au Maroc. Déjà le fait que je ne croyais pas en Dieu, que je ne pratiquais pas. Dans ma famille, tout le monde a toujours jeûné. Mon père était agnostique, il le faisait plutôt par habitude, pour la culture, pour accompagner ma mère, parce qu'il était au travail. Ma mère, en revanche, musulmane, voilà, le faisait vraiment par conviction. Mais voilà, comme j'ai eu la chance de grandir dans une famille qui ne nous a rien imposé et qui ne parlait pratiquement pas de religion pour justement ne pas nous influencer et nous laisser le libre choix, bah, la question ne s'est jamais posée quand j'ai eu l'âge de jeûner, à la puberté donc. Je ne me suis jamais dit « Ah, je jeûne pas, je suis musulmane, je ne suis pas ». Et mes parents ne m'ont jamais dit « Ah, bah ça y est, donc tu es en âge de jeûne, tu dois jeûner ». Ramadan est arrivé, je n'ai pas jeûné. Aujourd'hui encore, dans ma famille, on jeûne et moi, je ne jeûne pas. Et pendant Ramadan, quand il y a des gens qui jeûnent autour de moi, famille ou amis, il n'y a aucun souci pour que je mange devant eux, quoi. Si j'ai envie de manger, ben, je vais aller dans un endroit manger, sachant que dans beaucoup d'endroits, on refuse de me servir. D'ailleurs, dans l'article 222 du Code pénal qui condamne le fait de manger en public pendant Ramadan, l'article d'ailleurs est très bizarre parce qu'il dit « toute personne notoirement connue pour son appartenance à l'islam ». Mais que veut dire « notoirement connue » ? Ça veut dire que l'épicier, pour lui, bah, t'es marocaine, donc t'es musulmane. Ton voisin, t'es, ton professeur, voilà. C'est comme ça, c'est une étiquette qui restera à vie. Et quand on va dans les restaurants, ou dans les bars, ou etc., on demande la pièce d'identité. Si, en plus, sur la pièce d'identité, il n'y a même pas la religion, pourquoi ? C'est juste par rapport au nom, au prénom. On refuse de servir les Marocains parce qu'assimilés à l'islam. En septembre 2009, Ramadan 2009, c'était le début des réseaux sociaux, le début de Facebook au Maroc, nous avions décidé d'organiser un pique-nique symbolique. Le but n'était pas de manger en public devant tout le monde, dans une, enfin, je sais pas, en pleine avenue centrale de la capitale par exemple, mais dans une forêt éloignée, etc. Et donc nous avons organisé ce pique-nique symbolique en 2009 pour lutter contre, condamner en tout cas cet article 222 qui condamne tout Marocain, toute Marocaine considérée de confession musulmane ou appartenant à l'islam qui rompt le jeûne ostentoirement public. Et de revendiquer par rapport à cette action symbolique et cet article-là, la liberté de conscience qui n'existe pas au Maroc. Le but était de nous retrouver, de casser la croûte, jeûneurs et non-jeûneurs. J'avais apporté un sandwich viande hachée, c'est donné rendez-vous à la gare. Je ne sais pas combien de personnes étaient au rendez-vous pour cette action, pas beaucoup c'est certain. D'autant donc que comme c'était un appel à mobilisation sur Facebook, évidemment que les autorités étaient au courant. Gendarmerie, police, en civil, en uniforme, en voiture, à pied, à moto, à cheval, qui encerclaient la gare et la ville de Mohammedia. Beaucoup de personnes nous ont dit plus tard, bah, on était là, mais pour être honnête, on a fait demi-tour, on a fait genre, on est au courant de rien, on est juste là par hasard. On s'est retrouvés deux par-ci, trois par-là, deux par-là. C'est là que certains policiers nous ont repérés et à être contrôlés. Et puis on nous a demandé très violemment, et en nous insultant de tous les noms d'oiseaux, et en nous molestant de quitter la ville. Et on a été obligés, accompagnés de certains membres des autorités, police secrète, etc., qui sont montés avec nous dans le train pour qu'on fasse demi-tour. Donc on n'a jamais refait de pique-nique comme celui-ci. Donc là, bah, Ramadan approche. Et on va voir ce qu'on peut faire encore pour faire passer ce message, parce que malheureusement, le code pénal va être réformé, donc il y a un projet là-dessus. Et par rapport à cet article 222, il y a aussi une amende, et l'amende va être encore plus importante pour les déjeuneurs. C'est-à-dire qu'elle passe de l'équivalent, elle passerait, pardon, de l'équivalent de 50 euros à 1000 euros.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et des histoires de Ramadan racontées par Ilana Navarro et réalisées par Annabelle Brouard. Merci à Zineb, à Cécile Janico et à Ibtissam Betty Yashgar. Commentaires, réactions, suggestions, des histoires de Ramadan, des témoignages, ce que vous avez fait ou pas fait, c'est sur notre site franceculture.fr à la page des Pieds sur Terre. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure. Et si vous avez envie, du 18 au 28 juin, sachez que France Culture s'installe au Théâtre du Rond-Point. C'est un cycle de lecture qui s'appelle Encore mieux, le monde à l'envers, pour le voir mieux à l'endroit. Voilà, ce seront des textes d'André Frédéric, de Georges Blondeau, d'IGB, d'Ambrose Pierce ou encore d'Alexandre Vialat. Des lectures par Nicole Genovese, Philippe Magnan et notamment samedi à 18h30, François Morel, oui le grand et le vrai François Morel, qui lira les textes du fameux GB. Ceci donc à 18h30, juste avant l'apparition de François Morel. Vous pourrez également assister au deuxième opus de Nos Pieds sur Scène à 16h au même théâtre du Rond-Point. Des histoires vraies racontées sur scène par ceux qui les ont vécues. Ils seront 7 à venir raconter 7 rencontres amoureuses, hasardeuses, dramatiques, tragiques, oniriques, etc. Toutes les informations sur cette opération spéciale au Théâtre du Rond-Point ce week-end, c'est sur le site de France Culture et aussi des Pieds sur Terre concernant les Pieds sur Scène. Les réservations indispensables au 01 44 95 58 81. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi sur France Culture, car il n'y a pas que les Pieds sur Terre. Restez à l'écoute de notre chaîne.